Bienvenue à l'appel d'aujourd'hui. Vous vous êtes sans doute rendu compte que nous faisons une expérience avec un format un petit peu différent parce que nous savons que pour beaucoup d'entre vous, vous écoutez ces webinaires quand vous avez un peu de temps. Il y aura donc un autre webinaire questions et réponses le 13 septembre où vous pourrez poser vos questions sur ce rapport. Ces mises à jour sont en partie nos efforts contenus de plus grande envergure pour être plus transparents, redevables, accessibles et accueillants. Ces efforts incluent les séances de l'équipe exécutive, questions-réponses aux réunions publiques de l'ICANN, le rapport du PDG au Conseil. Cette page vous aide à vous assurer de la redevabilité de l'organisation, de faire le suivi des progrès et du plan stratégique. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Lors de cette mise à jour, vous allez en savoir un petit peu plus sur les grandes lignes par rapport au trimestre qui s'est terminé le 30 juin. Lito Ibarra vous fera part d'une mise à jour sur le conseil d'administration et moi je vais parler de l'organisation et des politiques. Comme toujours, le trimestre a été très occupé. L'ICANN 59, qui était donc notre forum sur les politiques à Johannesburg, a été une énorme réussite. Nous avons eu la participation de plus de 1000 participants. Nous avons organisé 169 sessions publiques et nous avons eu un nombre impressionnant de nouveaux, 376 pour la plupart d'Afrique, ce qui était vraiment très intéressant pour nous. Nous avons également été très heureux de pouvoir mettre à jour notre stratégie des bureaux internationaux et nommer nos 5 bureaux régionaux, nos centres d'engagement et nos centres de partenariat. Ceci a représenté une étape importante pour mieux tirer profit de notre présence dans le monde entier et pour mieux servir la communauté internationale. Avec l'équipe exécutive, j'ai passé beaucoup de temps à considérer la planification financière et les ressources à long terme de l'organisation pour mieux vous servir. Cela n'est pas facile à faire, mais cela nous aidera à long terme. J'ai parlé de ceci ainsi que d'autres sujets dans le cadre de ce rapport, mon dernier rapport au Conseil en mai. Je vous encourage à aller voir les rapports sur les plaintes qui sont affichés en ligne. En ce qui concerne les finances, nous avons un excès d'$1 million au lieu du déficit de $9 millions prévu. Ceci est dû à un financement de $2 millions supérieur aux prévisions budgétaires et à des dépenses de $8 millions inférieures par rapport aux prévisions. Nous avons terminé l'année avec 460 millions de fonds de placement et 233 millions de revenus de enchères. Vous pouvez voir le rapport financier à la diapositive 41 du rapport pour plus de détails. Le Conseil a également approuvé le plan et le budget opérationnel de l'exercice 2018 pendant l'ICANN 59. C'était la première fois que la communauté habilitée avait la possibilité de rejeter le budget, ce qui n'est pas arrivé. J'ai également le plaisir de vous annoncer que Brian Schilling a rejoint l'organisation comme notre premier directeur pour la protection des consommateurs. Il travaillera en étroite collaboration avec la communauté pour améliorer les dispositifs de protection de la CAN et pour voir comment mieux parer aux activités illégales, abusives et illicites qui ont un impact sur le système dans le domaine. Par ailleurs, en plus de ses responsabilités actuelles, Daniel Alora, un assistant chef du consortium, a fait le rôle crucial de directeur en chef de la protection des données. Cela fait partie de notre priorité, mais on a assuré d'être toujours conforme dans le domaine constamment en évolution de la protection des données et de la vie privée. Et il devra garantir également la conformité et la mise à jour de notre programme interne de protection des données et de la vie privée. Le comité de nomination, qui donc a pour objectif de sélectionner les dirigeants au sein de la communauté de l'ICANN, vient d'effectuer ses sélections pour cette année. Vous avez peut-être vu lors de l'annonce récente que j'ai souhaité la bienvenue aux nouveaux responsables qui prendront leurs fonctions lors de la réunion annuelle d'Abu Dhabi. Et j'aimerais les remercier pour ceux qui partent, pour tout leur travail et pour leur dévouement. Maintenant, en matière de politique, je dis toujours que le rôle de l'organisation de la CAN est de soutenir et de faciliter le travail sur les politiques de la communauté. Lorsque je fais état de ces activités relatives aux politiques, c'est simplement un échantillon du travail que l'organisation soutient. Il y a toujours beaucoup de discussions sur les politiques qui ont lieu et ce dernier trimestre n'a pas dérogé à la règle. En plus du forum sur les politiques de Johannesburg, l'organisation de soutien aux normes génériques a adopté 9 requêtes et il y a 9 processus de développement de politiques qui sont en cours. En ce qui concerne l'organisation de soutien aux extensions géographiques, il y a eu adoption de 16 résolutions et il y a 3 activités sur les politiques qui sont en cours. En ce qui concerne la révision de l'organisation de soutien à l'adressage est en cours et le rapport définitif sera publié le 3 août. Vous en saurez davantage sur cette mise à jour sur les politiques aux diapositives 16 à 19 du rapport. Comme je le disais tout à l'heure, au dernier trimestre, nous avons mis à jour notre stratégie sur les bureaux internationaux. Nous sommes passés de 3 bureaux de liaison à 5 bureaux régionaux. Los Angeles, qui est donc notre siège social, nous avons Bruxelles, Istanbul, Montevideo et Singapour. Nous avons également des centres d'engagement à Washington, à Genève, à Pékin et à Nairobi. Nous avons également, et excusez-moi si je prononce mal, mais nous avons également des partenariats stratégiques à Asunción, au Caire et à Séoul pour nous aider à entrer en lien avec davantage de parties prenantes dans le monde entier. Nous le faisons pour mieux répondre aux besoins locaux des communautés parce que nous reconnaissons que ceci varie beaucoup suivant les lieux. Il y a également beaucoup de manifestations auxquelles nous avons participé au cours des derniers trimestres, mais je vais simplement en souligner quelques-uns. Nous avons organisé le forum annuel, le quatrième forum annuel du DNS au Caire, avec 100 participants. Le comité consultatif gouvernemental a également organisé un atelier de développement des capacités à Fidji pour la première fois. Je crois qu'il est très intéressant de voir ces différentes formations et discussions qui se produisent en vue d'encourager davantage de participation dans le travail de l'ICANN. À chaque trimestre, nous soulignons une région pour voir un petit peu de plus près ce qui s'y passe. Cette fois-ci, il s'agit de l'Amérique latine et des Caraïbes. En mai, je me suis rendue au Brésil où j'ai fait une intervention lors de la 27e réunion du LACNIC. J'ai également rencontré la communauté CCTLD et divers dirigeants politiques à Brasilia. Par ailleurs, les tournées sont toujours aussi appréciées dans la région. Il y en a une qui a lieu au Pérou. Vous pouvez en voir davantage sur les diapositives 36 et 40. J'aimerais maintenant vous parler des grandes lignes pour la division des domaines mondiaux. En mai, nous allons organiser notre sommet annuel sur la division des domaines mondiaux à Madrid et nous avons vu donc plus de 450 participants de 60 pays. Nous avons également demandé à nos parties tierces d'organiser un sondage de satisfaction pour nos parties contractantes, pour nous aider à améliorer nos services et identifier les zones d'amélioration. Nous savons qu'il y a toujours des zones d'amélioration. Les résultats du sondage viennent d'être publiés sur notre site web. Et nous avons également un message préenregistré du groupe MTIA qui les explique. Nous préparons également de manière très proactive au règlement général de l'Union européenne sur la protection des données qui devrait prendre effet, entrer en vigueur en mai l'année prochaine. Nous prenons ceci très au sérieux. Nous voulons absolument être prêts et conformes aux normes. Nous avons travaillé avec la communauté pour identifier les cas d'utilisateurs sur les données personnelles qui sont collectées, affichées et traitées, y compris les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre avec lesquels nous traitons. J'aimerais également souligner le travail continu effectué pour appuyer les titulaires de noms de domaine. Récemment, nous avons formé une équipe interdisciplinaire qui travaille avec les titulaires de noms de domaine et qui a commencé à parler de différentes opportunités de collaboration en vue d'augmenter les connaissances et la compréhension des titulaires. Nous créons une page web dévouée, assise sur la première étape, pour fournir des informations aux titulaires de noms de domaine. De fait, nous avons répondu à plus de 1700 appels dans ce domaine, ce qui souligne l'importance de cette activité. Par ailleurs, 1226 nouveaux GPLD ont été délégués et 1241 contrats de registre ont été signés. Il y a eu 150 noms de domaines internationalisés délégués dans la zone racine, y compris 56 domaines de premier niveau d'extension géographique IDN venant de 38 pays et territoires. Ceci représente 33 langues et 19 alphabets, comme vous le voyez dans les diapositives 25 à 29. Lors de la dernière cérémonie de signature de clés en juillet, la nouvelle KSK a été utilisée pour signer pour la première fois. Ceci est très important puisque cela représente la première étape dans les préparatifs pour le roulement de clés, de signature de clés, qui aura lieu au 11 octobre. Ceci nécessite énormément de préparation et un effort de coordination immense dans toute la communauté. Donc j'aimerais en parler un petit peu plus. La CAN est en phase d'effectuer un roulement de clés, de signature de clés des extensions de sécurité du DNS de la zone racine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ceci est une étape nécessaire pour assurer la stabilité, la résilience et la sécurité de l'Internet. Comme pour les mots de passe, le moment est maintenant venu pour l'ICANN de changer les clés cryptographiques utilisées dans les données du système de nom de domaine de signature de DNSSEC. ce type de changement n'a jamais eu lieu auparavant au niveau de la racine. Il y a uniquement eu une clé de signature de clé pour la zone racine depuis 2010. Donc, ce roulement de clé de signature de clé doit absolument être coordonné de manière très large et très précise pour éviter toute interférence dans le fonctionnement normal de l'Internet. Personne ne doit s'apercevoir que ceci a lieu. Donc, le 11 octobre, après des années de recherche et de planification au sein de la communauté, la zone racine sera signée par les Rissaines grâce à une clé de signature de zone signée avec la nouvelle KSK. Cela sera une étape majeure pour la communauté de l'Internet. Si tout se passe bien, personne ne s'apercevra et il ne devrait y avoir aucune interruption pour les internautes. Mais nous coordonnons en étroite collaboration avec les différentes parties impliquées au cas où il y aurait un problème. Si vous êtes, par exemple, développeur de logiciels de systèmes dans le domaine, distributeur, intégrateur de systèmes ou opérateur de réseau, vous devez absolument vous y préparer. Les opérateurs de réseau, les fournisseurs de services Internet ont toujours l'opportunité d'utiliser des bancs d'essai pour s'assurer d'être prêts. Je vous encourage à agir rapidement parce qu'il faut au moins 30 jours pour vérifier que vous êtes prêts jusqu'au 11 octobre. Vous pouvez consulter les diapositives 21 à 23 ainsi que l'annexe du rapport pour davantage d'informations. Ceci étant, je vais maintenant passer la parole à Vito. Merci Goran. Vito au micro. Je suis très heureux d'être ici au nom du Conseil de la CAN pour vous faire part de ce dont nous avons parlé récemment. Je vais parler de trois domaines principaux. Tout d'abord, le travail du Conseil ainsi que les conversations avec la communauté lors de l'ICANN 59 à Johannesburg. Deuxièmement, notre ordre du jour pour l'atelier du Conseil pour le mois de septembre à Montevideo et nos plans de communication avec la CNIG. Et troisièmement, certaines des questions les plus préoccupantes pour le Conseil actuellement. Alors, j'aimerais d'abord parler de l'atelier et des activités principales de Johannesburg. Lors de notre atelier de Johannesburg, nous avons parlé des sujets relatifs aux ressources de la communauté, par exemple pour les déplacements, ainsi que des préparatifs de l'ICANN pour le règlement de protection générale des données dont Yoran a parlé tout à l'heure. Comme d'habitude, le Conseil a été extrêmement actif lors de l'ICANN 59. Nous avons rencontré le Conseil d'administration de l'AFNIC. Nous avons passé du temps avec l'organisation de soutien au nom générique pour parler de la gouvernance de l'Internet. Nous avons participé à des séances du groupe de travail intercommunautaire de la communauté sur la gouvernance de l'Internet et les produits des enchères. Nous avons participé à différentes séances sur les équipes de révision et nous avons également rencontré le SAC et le RSAC et participé à d'autres sessions. Dans quelques semaines, nous allons avoir notre atelier du Conseil à Montevideo. Je serai très heureuse d'y être puisque cela aura lieu en Amérique latine, la région dans laquelle je vis. Lors de la même semaine, la 28e réunion de l'ACNIC aura également lieu à Montevideo. Et pour la première fois, le Conseil de la CAN rencontrera le Conseil de l'ACNIC. Je serai également ravie de participer aux manifestations qui fêteront l'anniversaire de l'ACNIC. Pendant notre atelier, nous allons nous concentrer sur les priorités du Conseil de la CAN, de l'organisation de la CAN, de la planification financière à long terme, d'autres sujets stratégiques, y compris le règlement général sur la protection des données, ainsi que de la transition des membres au sein du Conseil. Alors j'aimerais vous en dire un petit peu plus par rapport à ce que fait le Conseil. Nous sommes en train de travailler aux objectifs du Conseil pour cet exercice, y compris la structure des objectifs ainsi que la structure de nos ateliers. Nous avons passé beaucoup de temps là-dessus pour nous assurer que nos objectifs correspondent au mieux aux besoins de la communauté. Suite à la transition du rôle de supervision IANA, nous continuons de faire évoluer la structure des ateliers du Conseil. Nous les organisons par sujet de manière à nous aider à nous focaliser sur les domaines clés qui doivent être traités dans le cadre de ces ateliers. Vous savez peut-être déjà que Steve Crocker va quitter le Conseil de l'ICANN et ses fonctions en tant que président du Conseil, rôle qu'il tient depuis 2011. Il a été nommé en tant que membre du Conseil en 2008 et il siège au Conseil depuis 2002, à titre de liaison auprès du Conseil et membre fondateur du SAC, sans droit de vote. Au total, Steve est resté au Conseil d'administration de l'ICANN pendant 15 ans, avec diverses fonctions. Son influence et sa présence marquera l'avenir, certes, non seulement dans le cadre de son service pour l'ICA, mais également dans le cadre de son travail fondateur dans l'Internet depuis sa création. Certes, Steve va nous manquer énormément. Le Conseil a un plan de relève pour la succession de Steve et nous sommes en train de travailler ensemble pour déterminer qui sera notre prochain président et notre prochain vice-président. Le Conseil finalisera ses décisions par rapport à cette nouvelle équipe dirigeante du Conseil lors de la réunion générale d'Abu Dhabi en octobre-novembre et nous élirons à ce moment-là les nouveaux dirigeants. Ceci conclut la mise à jour du Conseil et c'est la fin de notre rapport trimestriel. Vous pourrez trouver davantage d'informations et la totalité de notre rapport sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur le site web de l'ICANN à icann.org/quarterlyreports. Merci beaucoup.